Igor Grand, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un écrivain français né en Russie. Vous êtes arrivé ici à l'âge de 10 ans avec vos parents. Et depuis plusieurs ouvrages, vous réfléchissez aux mécanismes anciens qui éclairent ce que vous appelez la zombification de l'esprit russe. Et vous avez choisi d'intituler votre intervention « La Russie des gens simples ». Alors voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, les gens simples, les Russes simples, pourquoi faut-il en parler ? Tout simplement, pour deux raisons, pour moi, essentielles. La première, c'est que c'est la clé de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la clé de la guerre. On dit souvent, on entend souvent, c'est Poutine qui a déclenché cette guerre. C'est vrai, en partie seulement. On entend aussi souvent, on se dit que suffirait de remplacer un méchant Poutine par un gentil Poutine et tout rentrerait dans l'ordre, les affaires reprendraient comme avant. C'est oublier un petit peu qu'il y a justement ces gens simples, ces Russes simples, qui n'habitent pas forcément à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, qui habitent loin de ces capitales, qui ont voté massivement Poutine, hein, d'ailleurs, et qui n'ont rien contre l'idée d'aller envahir son voisin et d'y commettre des crimes de guerre. Je pense que sans ce peuple russe, la guerre n'aurait pas duré aussi longtemps. Elle aurait déjà, elle se serait terminée par épuisement des volontés, soit tout simplement elle n'aurait même pas commencé. On va y revenir un peu plus tard sur cette réflexion. La deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser aux Russes simples, c'est que personne ne s'y intéresse. Les journalistes français, bien sûr, pas trop. L'intelligentsia russe, absolument pas non plus. C'est assez flagrant, d'ailleurs. Alors que le 19e siècle, on sait bien que les grands écrivains russes se sont beaucoup penchés sur les Russes simples, sur les gens simples. Aujourd'hui, l'intelligentsia, les opposants russes, ne s'intéressent pas du tout à ce peuple russe, tout simplement parce que je pense qu'ils ne veulent pas voir ce que ces Russes simples ont à leur dire, on y entend ce qu'ils ont à leur dire. Alors, pour illustrer un peu ce propos, j'avais commis un essai, je ne sais pas comment le dire, qui s'appelle « Voyage clandestin avec deux femmes bavardes », où j'ai suivi à distance sur Twitter deux femmes russes très simples. Elles ne sont ni journalistes, ni blogueuses, ni quoi que ce soit. Il y en a une qui vend des tickets de tramway à Perm. Perm, c'est très très loin, c'est une grosse ville du centre de la Russie, mais c'est très très loin de Moscou. Pour vous donner une idée, il faut 23 heures de train pour aller à Perm, si on va à Perm. Alors, soit on prend l'avion, soit on ne va pas à Perm. Ça, je ne sais pas, vous choisissez. Et l'autre est assistante dans une crèche à Nijni Novgorod. Pourquoi j'ai choisi ces deux femmes ? Tout simplement parce qu'elles étaient abondamment présentes sur Twitter, avec des posts très simples, qui ne concernaient pas spécialement la vie politique. Et pourquoi étaient-elles sur Twitter ? Parce qu'elle souhaitait faire des rencontres masculines. Alors, ce n'est peut-être pas la première raison d'aller sur Twitter, mais en Russie, parfois, oui. Alors, pourquoi ce critère assez étrange ? C'est tout simplement parce que Twitter est interdit d'accès en Russie, il faut un VPN pour y accéder, et donc ces femmes se sont peut-être justement, ont justement supposé que la présence d'un VPN nécessite d'avoir un esprit un petit peu bricoleur. Et n'importe qui, comme ça, n'entre pas sur Twitter. C'est une sorte de club un peu privé en Russie. Et donc, les messieurs qui pourraient s'y trouver ont déjà franchi une première étape de sélection. Alors, elles ont toutes les deux entre 38 et 48 ans. Elles ont toutes les deux connu des échecs sentimentaux. Et elles sont toutes les deux en recherche de la perle rare. Elles sont très difficiles dans leur choix. Donc, il ne s'agit pas de... Elles sont jolies, elles sont blondes, toutes les deux, se font aborder assez facilement dans la rue. Mais voilà, elles ont mis la barre un peu haut. Elles veulent absolument quelqu'un qui vienne de Twitter. Bon, alors ça c'est pour l'anecdote. Ce qui m'intéressait aussi surtout, c'est que donc en plus de leur production abondante de tweets, entre 10 et 15 tweets par jour, c'est beaucoup, elles assistent en direct à la guerre qui commence et qui se poursuit, et elles ont une analyse un peu différente des raisons et des conséquences et de comment faut-il réagir à cette guerre. Celle qui habite à Nijni Novgorod, Svetlana, pour la guerre. Elle était d'ailleurs pour la guerre avant même l'attaque du 24 février 22. Elle se demandait comment ça se fait qu'on n'a toujours pas... Qu'attend Poutine, se demandait-elle avant le 24 février. Pourquoi n'a-t-il pas... Alors, c'est très bien ce qu'on ait annexé la Crimée, dit-elle. C'est très bien qu'on ait un peu pourri le Donbass. Mais qu'attendons-nous pour aller plus en profondeur et récupérer ce qui lui paraît être les territoires historiques de toute la Russie. Cette femme le dit... Elle est par ailleurs très gentille, hein. C'est le paradoxe des Russes simples, c'est qu'ils ont l'air parfaitement humains et pourtant ils se conduisent en barbares et ont des envies de crimes tout à fait assumées. Juste pour preuve de sa gentillesse, elle a recueilli un chat dans la rue. Bon. C'est quand même une preuve de gentillesse, et donc elle le garde chez elle, un pauvre petit chaton abandonné. Alors, une fois la guerre enclenchée, évidemment, elle est tout à fait enthousiaste à cette perspective. Elle se demande quand même comment ça se fait que ça avance si lentement. C'est sans doute parce qu'il y a eu des traîtres, des bureaucrates, tout un tas de choses un peu pourries dans l'armée russe. Donc elle est au courant des handicaps qui rongent cette formidable armée, deuxième puissance mondiale sur le papier. Elle commence à trouver le temps long au fur et à mesure des mois qui passent. Et ensuite, bien évidemment, elle comprend pourquoi ça avance si lentement. C'est parce que l'OTAN est entrée en guerre du côté de l'Ukraine et ça la soulage un peu parce que sinon, évidemment, l'armée russe aurait déjà, bien sûr, pris Kiev depuis très longtemps, pense-t-elle. L'autre femme, Elena, celle qui vend des tickets de tramway à Perm, elle a suivi un chemin un peu inverse. Au départ, en 2014, elle a fait la fête au moment de l'annexion de la Crimée. Elle a fait la fête tout simplement parce que c'est une femme extravertie qui aime ses voisins. Et ses voisins étaient tout joyeux. Et elle, du coup, aussi, elle est toute joyeuse. Un peu comme chez nous, quand on gagne une Coupe du Monde de football, et même quand on n'aime pas le foot, eh bien, on se sent un petit peu porté par l'ambiance qu'il y a autour de nous. Eh bien, c'est pareil pour Elena. Elena a fait un peu la fête. Et puis, bizarrement, comme elle s'intéresse beaucoup au tramway, au transport en commun, donc elle vend des tickets dans un tramway, elle pense passer l'examen pour devenir conductrice de tramway, ce qui n'est pas évident. Elle se connecte à des blogs de gens de la régie municipale à Lugansk, et elle s'aperçoit finalement, ils sont russophones, elle est russophone, et elle s'aperçoit petit à petit que finalement ça ne va pas si bien que ça dans ce Donbass qu'on a libéré. Et plus le temps passe, plus elle trouve que, au contraire, le pouvoir y appartient à des gens qui sont un mélange de mafia, de FSB, de mercenaires, de types pourris, ça ne lui plaît pas du tout. Et petit à petit, elle commence à écouter la chanson en face, qui est de dire, pas la chanson, mais la plainte en face, la chanson poignante en face, qui est de dire « Regardez ce que les Russes font dans le Donbass ». Et à force d'écouter, elle comprend et elle se prend, elle devient en empathie avec les Ukrainiens. Tout ça, elle le garde pour elle, même si elle, de temps en temps, elle tweet, de temps en temps, elle laisse des commentaires sur les réseaux sociaux en disant que voilà, ce n'est pas normal quand même ce que nous fabriquons en Ukraine. Ce qui est assez dangereux, hein, je dois dire, pour une Russe simple. Donc voilà, voilà les deux prototypes de Russes. Alors, quand je dis simple, ce n'est pas seulement par le métier, c'est aussi par les moyens financiers. Les deux femmes gagnent toutes les deux à peu près les mêmes revenus. Elles gagnent entre 350 euros et 450 euros par mois, les mois fastes, quand elles font des heures supplémentaires, soit à piloter le tramway, soit à garder des enfants. Donc ça vous situe à peu près Mais elles sont quand même privilégiées, hein, parce qu'elles ont un emploi fixe, elles sont employées par la municipalité de Nijni Novgorod pour l'une, celle de Perm, la régie municipale de Perm pour l'autre. Donc il y a la stabilité de l'emploi. Et un parcours un peu différent. Alors, je les ai pris en parallèle, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 50-50, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que la population russe se partage comme ça à égalité. Elena, qui travaille dans le tramway et qui est donc en empathie avec ce qu'elle voit comme quelque chose d'abominable qui arrive à l'Ukraine, est effarée de constater que dans son tramway, elle vend des tickets, donc elle croise les gens chaque jour, dans son tramway, eh bien, 99%, elle donne le chiffre, c'est-à-dire l'intégralité des gens qui montent dans son tramway, qui sont aussi des gens simples, évidemment, parce que quand on prend le tramway à Perm, c'est qu'on n'a pas de Rolls-Royce, a priori, dans son, en bas de chez soi. Et donc, elle croise des retraités, des étudiants, des alcoolos, toute la panoplie des Russes simples, qui sont, comme un seul homme, favorables à la guerre en Ukraine et... Elena en sort traumatisée, elle se confie à Twitter à ce sujet et essaye d'analyser, de comprendre. D'abord, elle essaye parfois de dialoguer avec ces gens. Elle n'y arrive absolument pas. Tous ses arguments se heurtent à un mur qui est en fait construit suivant un axe principal, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est l'argument majeur des gens simples, des Russes simples de Perm pour aller en Ukraine, pour envoyer leurs troupes en Ukraine en leur nom, c'est nous sommes un pays grand, nous sommes un pays fort, et il faut que le reste du monde nous craigne. Voilà. Donc ça résume à peu près la vision géopolitique de la Russie de province. Les arguments d'Elena quand elle dit oui mais regardez Mariupol a été rasé sont contrés de manière tout à fait naturelle par l'argument suivant oui mais si on n'est pas débile quand on voit des Russes arriver dans des chars soit on lève ses mains et on se rend soit on se sauve et donc si Mariupol a été rasé c'est de leur faute puisqu'ils ont résisté. Voilà, donc une sorte de logique absolument carnivore. En fait, elle comprend très très vite, Elena, qu'elle n'a pas de dialogue possible avec les gens qu'elle transporte. Elle essaye de se réfugier dans des commentaires sarcastiques qu'elle laisse sur Twitter et un peu partout sur les réseaux. Ça finit par se passer assez mal pour elle parce que le réseau en Russie le plus puissant, c'est Vkontakt. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant que Twitter puisqu'il n'y a pas besoin de VPN pour y aller. Et elle laisse un commentaire sarcastique sous une nouvelle patriotique. Et ce commentaire est aussitôt dénoncé, cafeté. On cafte aussitôt. Elle est convoquée au poste de police de Perm où elle partage son angoisse avant d'y aller. Donc on peut suivre jour après jour comment elle se prépare à cet entretien. Je rappelle, ce n'est pas une intellectuelle, hein, c'est quelqu'un qui vend des tickets dans un tramway. Elle prend conseil à droite et à gauche. Elle se dit que la meilleure manière de se défendre face à l'accusation... Alors, de quoi l'accuse-t-on ? On l'accuse de diffamer l'armée russe, ce qui peut être grave ou moins grave. Ça dépend de la tête du client. en gros. C'est-à-dire que si vous êtes un activiste de Navalny, ça peut être très grave, en plus de diffamer l'armée russe. Si vous êtes un éco-citoyen et que vous manifestez parce que la décharge municipale pue, eh bien là aussi ça peut être grave, puisque en fait vous êtes déjà sur la pente de la contestation de la municipalité. Donc, voilà. Mais si vous êtes vendeuse de tickets dans un tramway, finalement le policier comprend très vite qu'il n'y a rien à tirer, vous ne représentez rien, vous êtes rien. Et donc, elle ne risque pas grand-chose. Elle sort avec une amende, enfin de la peine minimale. Hein, c'est une amende de 30 000 roubles, ce qui est énorme pour elle. Hein, c'est plus d'un mois de son salaire. Donc, voilà, ça, c'est un peu son parcours à elle. En parallèle, Svetlana, celle qui est pro-guerre, s'étonne. Alors, elle, petit à petit, plus la guerre avance, plus elle est frustrée de ne pas pouvoir annexer tout rapidement. Elle est au courant des crimes de guerre qui sont commis, parce que régulièrement elle voit passer, malheureusement pour elle, elle voit passer des images de Mariupol, de Boutcha même, elle les a vues passer. Alors elle est obligée de mettre en branle son système immunitaire, qui est de se mettre en mode de cécité volontaire. Tout simplement, soit elle ne les remarque pas, soit elle dit ça n'existe pas, c'est d'une fake news, soit elle dit c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont fait. Elle ne cherche pas à argumenter, encore une fois, ni à. Ce n'est pas une intellectuelle. Je vous raconte comment elle construit sa narration, sa fiction personnelle. Vous savez, celle qu'on a tous quand le matin on se lève et qu'on se regarde dans le miroir. Voilà, que ce n'est pas le prof. C'est pas moi qui suis mauvais en anglais, c'est le prof d'anglais qui est très mauvais. Voilà. Nous, on est tous dans cette construction-là, et elle aussi. Évidemment, face à quelque chose qui est intolérable pour elle, qui est de voir qu'en son nom, avec son argent, avec ses impôts, même si on n'en paye pas beaucoup, et avec son idéologie, eh bien, des villes sont rasées et des centaines de milliers de personnes sont tuées. Donc, voilà à peu près le contexte. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir, en fait, quelle est la petite graine qu'avait en plus Elena par rapport à Svetlana, ou qu'est-ce qui a déserté Svetlana pour la transformer en cette chose, en fait, avide, presque, de crime. Et évidemment, enfin... Pas évidemment, mais là, en y réfléchissant, en regardant ce qu'elle tweetait, outre la présence de cette grandeur fantasmée que défend Svetlana, grandeur fantasmée pour son pays, qui doit en imposer au reste du monde, qui doit les faire pisser de trouille, ce qui est frappant, c'est le fait que l'humanisme de base s'est juste évaporé chez cette femme, à l'inverse de Elena, qui a retrouvé par un hasard sympathique, ou parce qu'elle l'a cultivé, cette graine d'humanisme qui a commencé à germer et à qu'elle protège en elle. Et je me suis dit à ce moment-là que, en fait, à quel moment est-ce que ça s'est produit, cette déshumanisation de la Russie, des gens simples, qui sont par ailleurs, qui peuvent être très sympathiques, hein, on peut parler tout à fait sympathiquement avec des Russes pro-Poutine, on peut rire avec eux, mais pas de l'Ukraine ni de Poutine, hein, attention. On peut avoir des souvenirs d'enfance en commun, et puis s'apercevoir que dès qu'on change de conversation et qu'on parle de l'agression russe, eh bien, on a en face de nous des gens qui sont prêts à vous mordre, enfin, au sens littéral. En fait, la racine du mal, c'est les années 1990, cette décennie qui a vu l'arrivée de Poutine au pouvoir, où la Russie, les Russes ont vécu dans leur chair, se sont vus appliquer aussi une sorte de capitalisme incroyablement sur-barbare, on va dire. et qui ont réagi à ce capitalisme en se disant « finalement, ce n'est pas si mal que ça, c'est ce que Darwin appelle la sélection du plus fort ». On a la sélection naturelle darwinienne, et bien là, nous avons la sélection économique, ce qui est basé sur le même principe, c'est-à-dire que le faible, ou celui qui n'a pas de relation, ou celui qui n'arrive pas à piller son entreprise, ou à voler des trucs, ou à celui qui n'arrive pas à spéculer, eh bien c'est tant pis pour lui. Voilà. Et la Russie des années 90 a vécu dans ce système de valeurs qui est changé petit à petit. Ça ne s'est pas fait en une journée, ça s'est fait sur une décennie. En parallèle, il y a eu les oligarques qui pillaient le pays, bien sûr, qui donnaient un exemple de ce qu'il faut faire, enrichissez-vous aux dépens des autres. Hein, donc c'était la morale de cette histoire. Et finalement, ils se sont partagés, le monde des Russes est partagé en deux catégories. C'est ceux qui sont aux manettes, comme ils disent, ou en russe, « те, которые за рулем, те, кто рулят », qui tiennent le volant, et les minables, où il y a un mot aussi russe spécifique pour ça, « лохи ». Donc voilà, soit vous êtes un « лох », soit vous êtes au volant. Et soit vous dirigez, vous écrasez un peu quelques lochs, mais c'est tant pis pour eux. Soit vous êtes, alors, vous qui vous apitoyez sur tout un tas de trucs, eh bien, vous êtes plutôt un loch. Voilà, et c'est à partir de ce changement de vision, de cette classification des gens, que, à mon sens, une des racines gravissime de ce qu'on vit aujourd'hui en Russie, est né et apparu et a prospéré, évidemment en flattant aussi au passage tous les instincts nationalistes, patriotiques, etc., qui sont venus s'ajouter en fait à cette désespérance, cette désertification humaniste. Et bon, on pourrait parler encore des heures et des heures là-dessus, mais je vais plutôt aller vers la fin, et peut-être qu'il y aura des questions. Simplement pour dire, que faut-il faire alors est-ce qu'on peut soigner ou guérir, ou que faut-il faire avec Svetlana, et peut-on au contraire faire confiance dans la graine humaniste de Elena pour qu'elle contamine ses voisins, etc. Alors, c'est pas évident comme réflexion. On aimerait bien, hein, moi j'aimerais bien, mais il faut être réaliste. La meilleure amie de Elena, donc celle qui est en empathie avec l'Ukraine, sa meilleure amie, Irina, est une pro-poutinienne. Ils arrivent à s'entendre quand même. Cette Irina, quand Elena arrive chez elle, elle a un drapeau de la Russie qui couvre tout le mur et un portrait de Poutine accroché un peu de travers sur le même mur. Et elle a deux enfants, deux garçons, 19 et 21 ans. Chair à canon, parfaite. Tranche d'âge, parfaite. Et quand ils discutent entre elles, Elena demande à Irina, mais alors, finalement, toi qui es pour la guerre, et tes garçons, en fait, tu y as pensé? Elle leur dit, mais ne t'inquiète pas, mes garçons, ils n'iront pas à la guerre. Mes garçons, ils se sont inscrits à un truc sur Internet où ils achètent des faux certificats médicaux qui vont les dispenser au moins pendant les 6 prochains mois. Et puis ensuite, ils vont passer un examen médical complémentaire, puis ils vont encore rebidouiller, ils n'iront pas à la guerre. Mais ça ne la dérange pas que les enfants des voisins y aillent. Vous voyez, donc c'est assez, il n'y a pas de logique pure, hein. c'est pas des gens qui s'alignent comme des automates pour aller envoyer leurs enfants au casse-pipe, même s'il y en a, c'est ce qui est assez effrayant, mais ça, ils ne voient pas le lien logique entre la guerre et le fait que leurs propres enfants sont en danger d'y aller. Il y a toujours des passe-droits. En fait. Et là, on retrouve un peu cette mentalité dont j'ai parlé des années 90. C'est-à-dire que celui qui sait se débrouiller, celui qui sait s'inscrire à un truc médical où il aura un faux certificat, eh bien, c'est tant mieux pour lui. Voilà. Et toi, le voisin qui ne sait pas le faire ou qui n'a pas d'argent, ah bah c'est tant pis pour toi, voilà, mon pauvre ami. Mais au moins, tu es là pour la Grande Russie. Voilà. Donc, sois fier et va mourir. Donc, peut-on les soigner ? Je dirais que, pour aller vite, la cause, enfin, le médicament de base, j'ai entendu tout à l'heure la victoire de l'Ukraine, bien sûr, la victoire de l'Ukraine. Et en parallèle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, la défaite de la Russie. Moi, je souhaite les deux. C'est-à-dire que la victoire de l'Ukraine, oui, bien sûr, certainement, ce n'est que justice, après tout. Mais la défaite de la Russie, ça veut dire le démantèlement du mode de pensée impérialiste, le démantèlement de cet anti-humanisme qui est maintenant enraciné et qui nourrit la guerre. Et cette défaite doit être évidemment militaire, on l'espère militaire, c'est là que meurent les gens, que se passe la guerre. Et cette défaite militaire sera, je pense qu'elle va arriver, hein. Je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là, même si je sais que ce n'est pas de bon ton aujourd'hui. Donc je pense que l'Ukraine va gagner militairement. Et cette défaite militaire sera humiliante pour la Russie. Et de cette humiliation, j'utilise exprès le mot humiliation pour, vous avez compris, rebondir sur les propos de Macron, qui disait « il ne faut pas humilier la Russie ». Il a changé un peu de discours, tant mieux, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué il y a à peu près un an. Et moi, je pense au contraire qu'il faut humilier la Russie. Il est indispensable d'humilier la Russie pour que se passe un réveil brutal quand finalement ils s'aperçoivent que leur posture de « nous faisons peur à tout le monde, nous sommes les maîtres, l'Occident est un loch et nous, nous sommes au volant », en fait, ne fonctionne pas. Non, vous n'êtes pas au volant. Vous êtes des criminels, vous êtes complices des criminels. En votre nom, des crimes de guerre sont commis chaque jour et il va falloir payer l'addition. Voilà.